Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nainar Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre Mel et Fernande. En la regardant vieillir, J'ai appris à vivre est un récit autobiographique de Mélissa Anton, publié chez Fayard, qui part d'une expérience familiale devenue publique grâce aux réseaux sociaux. Le livre suit la relation entre l'autrice, jeune adulte, et son arrière-grand-mère Fernande Centenaire, autour d'une cohabitation imposée par l'âge, de la perte d'autonomie et de la découverte mutuelle. L'enjeu du texte n'est pas seulement de raconter une complicité touchante, mais de montrer comment la vieillesse peut devenir un lieu d'apprentissage, de transmission et de repositionnement intérieur. À partir d'anecdotes du quotidien, de dialogues et d'un ton accessible, l'ouvrage interroge la place des aînés dans la famille, le rôle des jeunes aidants et la manière dont on regarde le grand âge. Il se distingue par son mélange de sensibilité, de simplicité et de réflexion sur la dignité des personnes âgées. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, clé, une relation intergénérationnelle qui transforme le regard sur le grand âge. Le cœur du livre est la rencontre progressive entre Mélissa et Fernande, deux femmes séparées par près de 8 décennies, mais réunies par la vie quotidienne. L'intérêt du récit vient du renversement de perspective qu'il propose au lieu de réduire Fernande à son âge. L'autrice apprend à la considérer comme une personne entière, avec son humour, sa mémoire, ses habitudes et sa volonté propre. Cette évolution donne au livre sa portée principale, car elle montre que le lien familial n'est pas automatique. Il se construit par la présence, l'écoute et l'attention. Le texte insiste ainsi sur le fait que les personnes âgées ne sont pas seulement des objets de soins, mais des sujets de relation. En révélant cette humanité concrète, le livre combat la distance affective qui peut s'installer entre générations et rappelle que la proximité permet souvent de découvrir ce qui restait invisible derrière des rôles familiaux figés. Deuxièmement, la transmission comme mémoire vivante, pas comme simple héritage. Le mot « transmettre » structure tout l'ouvrage, mais il est employé dans un sens large et profondément humain. Il ne s'agit pas seulement de léguer des souvenirs ou des récits, mais de transmettre une manière d'habiter le temps, une dignité et une présence au monde. Fernande devient une dépositaire de mémoire, mais aussi une figure qui transmet à Mélissa une autre hiérarchie des valeurs, fondée sur la simplicité, l'attention aux autres et la relativisation des priorités. Cette idée donne au livre une dimension réflexive importante. La mémoire n'est pas présentée comme un stock de faits, mais comme une expérience vivante qui circule entre les générations. Le récit suggère aussi que transmettre suppose d'abord de faire place à l'autre, de lui laisser le droit d'exister autrement que par sa fragilité. Le livre valorise donc une transmission réciproque. L'aîné donne sa mémoire, la plus jeune donne du temps, de la visibilité et une forme de continuité symbolique. Troisièmement, le quotidien de l'aidant jeune adulte face à la perte d'autonomie. L'ouvrage ne se limite pas à une évocation émotive. Il met aussi en scène les ajustements concrets qu'exige l'accompagnement d'un proche âgé. Mélissa y décrit la réorganisation familiale, les choix de cohabitation, les gestes d'attention et les contraintes du quotidien lorsqu'une personne centenaire ne peut plus vivre seule. Ce point est essentiel car il ancre le récit dans une réalité souvent peu racontée, celle des jeunes aidants. Le livre montre comment cette responsabilité transforme les priorités d'une jeune adulte, ses attentes professionnelles, sa manière de penser le temps et même sa relation à l'avenir. Sans en faire un manuel, le texte éclaire les tensions entre vie personnelle, études, autonomie et soutien à un aîné. Il donne ainsi une visibilité sociale à un rôle souvent discret, parfois culpabilisant, et rappelle que l'aide familiale repose sur des ajustements permanents. Cette dimension pratique distingue le livre d'un simple témoignage sentimental et lui donne une portée sociale réelle. Quatrièmement, une écriture simple pour rendre la vieillesse visible et non stéréotypée. Le style du livre est l'un de ses atouts majeurs, il privilégie une écriture directe, fluide et accessible, adaptée à un récit fondé sur l'observation du quotidien. Cette simplicité n'est pas un appauvrissement, elle sert le propos en laissant place aux scènes, aux attitudes et aux échanges qui font apparaître Fernande comme une personne singulière. Le livre contribue ainsi à défaire les représentations stéréotypées du grand âge, souvent associées à la passivité, à la tristesse ou au retrait. Au contraire, Fernande y apparaît curieuse, lucide, drôle et présente, ce qui redonne au vieillissement une épaisseur humaine souvent absente des discours généraux. L'intérêt de cette approche tient à sa sobriété au lieu d'argumenter de manière abstraite contre l'âgisme. Le texte le contredit par le portrait vivant qu'il construit. La visibilité accordée à Fernande devient donc un geste littéraire et social à la fois, puisqu'elle replace la personne âgée au centre du regard au lieu de la maintenir en arrière-plan. En dernier lieu, un récit né des réseaux sociaux. Entre intimité familiale et circulation publique, le livre s'inscrit dans une trajectoire particulière, celle d'un duo devenu connu en ligne avant d'être raconté par écrit. Cette origine donne au projet une double dimension. D'un côté, les vidéos ont permis de partager des moments du quotidien et de rendre la vieillesse plus familière à un large public. De l'autre, Le livre prend le lait du format court pour approfondir ce que l'image laisse de côté les hésitations, les émotions, les changements intérieurs et les coulisses d'une relation. Cette articulation entre visibilité numérique et récit personnel est importante, car elle interroge la manière dont une histoire intime devient phénomène collectif. Le livre ne se contente pas de capitaliser sur la notoriété du duo. Il cherche à donner du sens à cette exposition en la replaçant dans une expérience familiale concrète. Il montre aussi que les réseaux sociaux peuvent servir à dédramatiser le vieillissement, à susciter de l'empathie et à ouvrir un espace de réflexion sur la place des aînés dans la société contemporaine. En conclusion, ce livre s'adresse d'abord aux lecteurs attirés par les récits intimes, les histoires familiales et les relations intergénérationnelles, mais il peut aussi intéresser les jeunes aidants, les proches de personnes âgées et plus largement ceux qui réfléchissent à la manière d'accompagner le vieillissement sans le réduire à une perte. Son principal apport est de montrer, à partir d'une expérience concrète, que la vieillesse peut être un espace de lien, de parole et de transmission, et non seulement une période de retrait. Le lecteur y gagne une compréhension plus fine des réalités du grand âge à domicile, ainsi qu'un regard moins stéréotypé sur les centenaires et sur ceux qui les accompagnent. Ce qui distingue cet ouvrage d'autres témoignages sur le vieillissement, c'est son point de vue double, à la fois très personnel et déjà partagé publiquement, avec une narration simple qui reste centrée sur la dignité de Fernande et sur la transformation intérieure de Mélissa. Le livre vaut donc autant comme expérience humaine que comme réflexion sur la place des aînés dans la famille contemporaine. Si vous souhaitez soutenir Mélissa Anton, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt